soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Ce premier évangile qui nous entraîne dans ce chemin du carême est un peu comme la feuille de route de ces 40 jours. Dans ce carême, si nous allons au désert, c'est bien pour imiter le Christ qui lui-même imite le peuple au désert, les 40 ans du peuple au désert. Et si nous imitons le Christ, nous allons suivre le même chemin que lui, c'est-à-dire un chemin de tentation, d'épreuve, dont il est sorti victorieux et il nous enseigne comment. Il nous est dit, saint Luc nous dit, que le diable, avec ses 3 tentations, a épuisé toutes les formes de tentation. Donc c'est là un condensé, un enseignement de la vie spirituelle. Alors regardons ces trois tentations d'un peu plus près et voyons comment Jésus nous enseigne à y répondre, qu'est-ce qu'elles peuvent nous aider pour avancer dans ce temps du carême. La première tentation, celle des pierres changées en pain. Ça veut dire, grosso modo, user de son pouvoir, de ce que l'on peut faire pour satisfaire ses passions sensibles. Donc là, évidemment, tout de suite, vous vous dites comme moi, c'est un peu grossier. Manger, boire, dormir, la sexualité, tout ça, bon, ce sont des choses bassement matérielles que je maîtrise depuis longtemps. Et pourtant, si nous creusons un petit peu, ce matin, quand vous êtes réveillé, à quoi vous avez pensé? Est-ce que vous avez pensé à l'évangile que vous avez lu le soir avant de nous endormir pour qu'il travaille toute la nuit? Ou est-ce que vous avez pensé que tiens, c'est dimanche, c'est les croissants, on va aller chercher un petit gâteau à la boulangerie, qu'est-ce que je vais prendre? Hier soir, j'ai repéré qu'il y avait un nouveau truc. À quoi vous avez pensé ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce que lorsqu'on est invité chez des amis, oui, bien sûr, on pense à la joie de se retrouver, mais est-ce qu'on ne pense pas aussi à un tel qui apporte toujours un bon whisky? Est-ce qu'on ne pense pas, si jamais on enlève le vin durant le carême, est-ce que ça ne fait pas un malheur à la maison? Ou on a déjà essayé, on a arrêté, parce que sinon, il devenait insupportable. Voyez? On maîtrise, et pourtant. Mais c'est pareil pour le dormir. Ah ben moi, si je n'ai pas ma sieste, je suis insupportable. Ah, peut-être. Mais peut-être que parfois, il y a des sacrifices à faire. Quelle maîtrise est-ce que j'ai de moi-même, le matin pour me réveiller, pour écouter la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il faut trois coups de réveil, hein, et puis finalement je me traîne au sortir du lit, et puis j'arrive comme un païen le soir et j'ai toujours pas ouvert mon cœur à l'écoute de la parole de Dieu, hein. Tout ça parce que je n'ai pas ouvert mes yeux le matin, hein. Et puis, eh bien, dans cette passion si forte de la sexualité, hein, qu'est-ce qu'en est le cœur? Est-ce que c'est le plaisir, hein, ou est-ce que c'est le don de soi? Et ça, il faut toujours s'interroger. Est-ce que c'est le don de moi-même, hein? Bref, cette première tentation, qui peut nous paraître un peu grossière, eh bien finalement, ne nous croyons pas trop spirituels. Hein? Qui fait l'ange, fait la bête. Hein? Et donc, ayons cette humilité de savoir que ces passions qui nous animent et qui sont bonnes, hein, eh bien, elles sont toujours, toujours à humaniser. La deuxième tentation, c'est celle du pouvoir. Tous les royaumes que Satan propose à Jésus. Alors, il y a beaucoup de royaumes dans notre vie. Il y a des royaumes qui nous sont tout proches. Mais par exemple, le cœur de certaines personnes, le cœur d'un conjoint, pas normalement on n'en a qu'un, de son conjoint, le cœur d'un parent, d'un frère ou d'une sœur lequel on est particulièrement lié, d'un enfant, hein, d'un ami, sur lequel on estime avoir des droits. Hein, et on peut être comme ça, tyrannique, sur ce qu'on estime être mon royaume. Alors ça va se traduire par de la jalousie, par la suspicion, par le fait de ne pas vouloir pardonner quelque chose, parce que tu m'as fait ça à moi. Hein. On va pardonner à tout le monde, mais pas à lui, pas à elle. On va tolérer plein de choses de tout le monde, mais pas de lui, pas d'elle. On estime qu'on a un droit sur ce cœur-là. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je serais un tyran sur ce royaume-là? Pourquoi? Parce que c'est mon conjoint, mon mari, ma femme ou quelqu'un de ma famille, hein, à qui je suis lié. Pourquoi est-ce que j'aurais ce droit de lui rendre la vie impossible? Le roi, c'est le Christ. Et là, il y a bien souvent des tyrannies, hein, à lâcher. Mais le royaume, c'est peut-être aussi dans son travail. Hein. On peut être un petit chef, un petit tyran. Hein. Pour les 2-3 personnes qui dépendent de nous, on peut se prendre pour César. Hein. Ça peut être aussi dans un service que l'on rend dans une association ou dans la vie paroissiale. Hein. Ah, il y a des précarés là, il n'y a pas intérêt à y toucher. Le vase, on ne l'a jamais mis ici. Je le remets dans l'autre sens. Je prends l'exemple du vase parce qu'il n'y en a pas là, ça va. Hein, vous savez comment est-ce qu'on peut très bien être tyrannique? Voilà, c'est son petit truc. Voilà. Et quand le Seigneur nous demande de lâcher quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui n'a pas vu, qui a donné un coup de pied ou qui a changé le truc, oh là, tout s'écroule. Hein. Nous avons comme ça nos petits royaumes à nous, où on est des vrais tyrans. Et alors, ce qu'il y a, c'est que le prix à payer, eh bien, il est très clair. Hein. C'est l'adoration de Satan. Vous allez me dire, attendez, entre l'histoire du vase et Satan, il y a quand même un monde. Et non, parce que si vous tirez l'exemple jusqu'au bout, c'est ce que dit le diable, tu te prosternes devant moi. C'est-à-dire que pour être tyran comme ça, il faut accepter d'avoir perdu une forme de liberté, de vraie liberté, qui est celle justement de ne pas mettre le grappin sur la personne, etc. C'est de laisser la personne être libre et elle appartient à Dieu. Et à un moment où je choisis de m'interposer entre Dieu et cette personne, et là, eh bien, je prends la place, c'est exactement ce que fait Satan. Donc, de toute façon, il n'y a jamais 3 chemins, il n'y en a que 2. Si ce n'est pas l'adoration de Dieu, c'est l'adoration de Satan. Alors, ça se traduit, parce qu'il y a toujours un prix à payer, hein, vous savez, on voit toujours ça, lorsque des personnes jouent avec le démon, que ce soit dans le spiritisme, la voyance, etc., il y a toujours un prix à payer. On gagne ça, mais alors, il y a ça, toujours quelque chose qui arrive à côté. Et ça se traduit par de la peur, de l'angoisse, de la jalousie, on est de l'amertume, ou bien la dépression. Il y a beaucoup de maladies psychologiques qui sont dues comme ça à une petite griffe que le démon met sur nous parce qu'on a ouvert une porte, on a laissé quelque chose entrer en nous. Donc, voilà, c'est l'occasion aussi de débusquer cela. Et puis, troisième tentation, beaucoup plus subtile, ça c'est une tentation spirituelle, c'est-à-dire, enfin, elles sont toutes spirituelles, mais celle-là, c'est la tentation de ceux qui vivent habituellement dans un commerce avec Dieu. C'est un commerce d'amitié, c'est la prière, hein, nous dit Sainte Thérèse. Ça se passe d'ailleurs dans le temple. Jette-toi en bas et c'est écrit dans l'écriture. Tu seras protégé. Ça s'appelle mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est la tentation de ceux qui lui sont proches. Ça, c'est nous, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas avant. Mais là, celle-là, elle est spécifique, spéciale catho. Hein, spéciale, celle-là. C'est-à-dire que On connaît bien Dieu. On a l'habitude de l'appeler, de prier, d'aller à la messe, de communier, de se confesser. On a l'habitude de tout ça. Et on est tellement habitué que, eh ben, on finit par ne plus être, eh bien, ces bons et loyaux sujets, si on peut dire. C'est-à-dire d'être dépendant de sa volonté. Et alors finalement, on magouille. Hein, on magouille. Alors, on sait un peu on va dire, Seigneur, aide-moi dans ma famille, telle chose. Et oui, mais si tu n'as pas pris le temps de bien faire ce que tu avais à faire, moi, je ne peux pas rattraper. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, c'est comme un prêtre qui dirait, Seigneur, aide-moi pour mon serment. Oui, mais tu n'as rien fait, tu n'as rien préparé. Je vais bien aider, mais je vais souffler sur quoi? S'il n'y a rien, il faut bien qu'il y ait des braises quand même. Eh bien, c'est un peu ça. Alors, c'est-à-dire que c'est non pas, on finit par dire au Seigneur, non pas ta volonté, mais la mienne. Hein? Gentiment, parce qu'on se connaît. Hein? Voilà. On fait du copinage. Non. Hein? Avec le Seigneur, ça ne marche pas comme cela. Il y a et c'est la réponse à ces trois tentations. Hein? C'est la parole de Dieu. À chaque fois que Jésus répond, c'est par la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Si Jésus avait employé une autre réponse, il n'aurait pas pu avoir le dernier mot avec Satan. Si j'avais dit, le pain, je crois que c'est bien d'avoir un peu de maîtrise de soi, Satan aurait toujours trouvé quelque chose à redire. Mais quand il cite la parole de Dieu, alors il y a quelque chose qui est écrasant pour le démon. C'est-à-dire que pour un homme, pour quelqu'un, pour une créature qui dit, moi, ma règle de vie, c'est la parole de Dieu, l'homme ne vit pas seulement de pain, etc. Eh bien, ça veut dire que je me place sous une altérité, un autre, transcendante, parce que c'est celle de Dieu et qui pour moi s'impose à moi. C'est cette obligation. De toute façon, si je ne suis pas cette obligation de Dieu, je serai esclave de bien d'autres obligations, comme on le voit dans ces tentations. Si je ne choisis pas d'être le serviteur obéissant promptement à la parole de Dieu, qui s'exprime dans la parole de Dieu, mais aussi à travers l'Église, etc., si je ne choisis pas cette obéissance-là qui descend, je veux dire, il y a cette verticalité où je choisis d'obéir à quelque chose qui me dépasse, et oui, je suis petit, je ne suis pas le maître, je vais être esclave de mes sens, esclave de ma manière de voir les choses et de gouverner, esclave de ma petite volonté plutôt que de celle de Dieu. D'ailleurs, tout cela, et c'est ça dans ce temps du carême, ce que le Seigneur veut débusquer, c'est que dès que j'essaie de me mettre à la suite du Christ, je vais buter sur ma volonté. Parce qu'en derrière ces trois tentations, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui dis, c'est moi qui gère, ou pas d'ailleurs, mais c'est moi. Et ça, justement, la parole de Dieu amène autre chose. Au centre de moi, il n'y a pas moi, il y a cette parole de Dieu, c'est-à-dire je reçois de Dieu la lumière de ma vie, je reçois de Dieu le sens de ma vie. Et ça implique des sacrifices, au niveau de ses sens, au niveau de sa manière de gouverner sa vie ou d'être dans le lien avec les autres, et au niveau du lien avec Dieu. Il n'est pas juste quelqu'un qui je négocie, mais qui est un père bon. Donc finalement, ce combat du désert, du carême, va me montrer où est-ce qu'effectivement je suis vraiment dans cette dimension de l'obéissance à Dieu, et donc ma lumière, c'est vraiment le Seigneur, ou alors, c'est ma volonté. Et là, beaucoup de choses à débusquer. Alors, nous sommes invités de manière toute particulière à cette écoute de la parole de Dieu. Le pape François, dans son message pour le carême, dit que ce qui nous fait sortir de l'aliénation existentielle, c'est-à-dire l'enfermement sur soi, aliéné, c'est la folie, c'est l'enfermement. L'aliénement, l'enfermement sur soi, c'est la parole de Dieu et les œuvres de miséricorde. Mais aujourd'hui, de manière toute spéciale, Jésus nous montre comment est-ce que la parole de Dieu, écoutée comme vraiment la lumière de ma vie, quelque chose qui s'impose à moi et qui change ma vie, cette parole de Dieu, elle est source d'une vraie liberté. Alors, nous pouvons tout simplement demander cette grâce et nous mettre à l'œuvre pour voir comment est-ce que dans notre vie, chacune de ces tentations répond, elle me parle, et comment est-ce que chacune de ces paroles que Jésus nous donne comme réponse est pour moi une lumière certainement qui est crue, c'est-à-dire qui va montrer mes résistances, mais qui en même temps est une lumière sur laquelle que je peux choisir comme étant la direction de ma vie, et c'est cela, être disciple du Christ. Amen.